Dieu envoie sa bénédiction. On a vu que l'Église, c'est le corps de Christ. Nous avons vu qu'il y a un seul corps, mais plusieurs membres. Et si nous voulons être bénis, il faut être assemblés. Pas juste une congrégation des corps qui sont dans la même salle, mais vraiment tout le monde à sa place, fonctionnant avec sa grâce, faisant exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen? Donc, ce matin, nous allons continuer dans cette direction et nous allons parler un peu plus du pouvoir d'être tous ensemble et nous allons voir l'importance de grandir ensemble dans un esprit d'amour. Combien de vous avez remarqué que tout ce que Dieu crée grandit? C'est comme normal. Si quelque chose est en vie, ça va grandir, n'est-ce pas? Et si ça ne grandit pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on va voir ce matin que si nous sommes ensemble, nous allons grandir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir? Individuellement, collectivement. Moi, je veux voir vos vies grandir. Je veux voir cette église grandir. Je veux voir toutes les assemblées dans cette région grandir selon le plan de Dieu. Ça, c'est vraiment mon désir. Mais pour cela, il faut être ensemble. On a vu la première semaine que ensemble veut dire d'être avec passion et à l'unisson, n'est-ce pas? Donc, c'est pas assez juste encore d'être là ou même assemblé à la bonne place. Il faut être tout le monde à la bonne place avec une passion, tout le monde dit avec passion et à l'unisson. Alléluia. Et ce matin, il y a un texte en Éphésiens chapitre 4, verset 11 que nous allons lire qui va transformer notre vie si nous portons attention à ce que Dieu dit. Regardons, Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a fait don, il parle de Jésus ici, c'est lui qui fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, comme on dit ensemble, à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, en stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons. Ça vous tente de grandir? Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Soulignez cette phrase, chacune de ces parties. Savez-vous que nous venons de voir plusieurs choses dans ce passage qui sont vraiment indispensables si nous voulons réussir dans la vie? Et moi, moi je veux réussir. Moi, je ne veux pas vivre 70, 80 ou même 100 ans sur la terre sans avoir accompli la volonté de Dieu pour ma vie. Je veux réussir. Je veux que cette Église prenne sa place et je veux avoir une réussite selon le plan de Dieu en tant qu'Église. Je suis content pour ce que Dieu fait dans cette assemblée, mais je suis aussi convaincu que ce n'est que le commencement. Peut-être pas le commencement, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille sur la fondation, mais moi, j'ai vraiment de la conviction dans mon cœur que la fondation, le fondement est là, la fondation de cette Église est solide, et maintenant, c'est le temps de voir la structure développée. On va voir cette Église grandir de plus en plus. Amen? Mais pour grandir, il faut être ensemble, et il faut saisir les principes qu'on vient de lire dans ce passage. Éphésiens 4, 11, comme on a vu, à 16, nous donne les éléments clés. Puis, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Il y a quatre choses que je veux souligner juste à titre d'introduction ce matin. La première chose que je vois dans le passage qu'on vient de lire, c'est que j'ai une fonction importante dans le corps de Christ. Moi, j'ai une fonction importante. On a parlé de ça la semaine passée. C'est quoi qui est le plus important dans un BMW? La carrosserie ou le pneu? Les deux sont importants, n'est-ce pas? Le moteur ou la roue. On a besoin de toutes les parties, sinon c'est pas une auto complète. Vous êtes d'accord? Et c'est la même chose. Quel membre de votre corps est le plus important? Moi, je pense qu'on doit respecter tous les membres de notre corps. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Donc, on a vu cela, que j'ai une fonction important à remplir. Je fais partie du corps de Christ. Je suis un membre en particulier. La deuxième chose qu'on voit, c'est que j'ai besoin de grandir afin de remplir ma fonction. Ça, c'est quelque chose d'important. Si vous êtes membre du corps de Christ, il faut grandir afin de pouvoir remplir votre fonction. Est-ce que vous êtes d'accord que le Seigneur Jésus, il est déjà mature? Est-ce que Jésus a besoin de grandir? Est-ce qu'il est parfait? Donc, on voit que la tête de l'Église, elle est déjà parfaite. La tête a déjà atteint une pleine maturité. Mais le problème, c'est que le corps qui est attaché à la tête n'est pas encore assez grand pour faire tout ce que la tête veut faire. On peut avoir plein de choses dans la tête qu'on veut faire, mais si le corps n'est pas assez développé, on ne peut pas le faire. C'est vrai, hein? Moi, j'ai une image que j'ai vue et que je veux la partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? Est-ce que quelqu'un qui pourrait me dire c'est qui? C'est un bébé, hein? Le bébé est assis dans quoi? C'est la coupe Stanley. C'est juste cette année. Il n'y a pas longtemps. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est qui? Hein? Non? Ça c'est le bébé du gardien de but des sénateurs. Hein? Quelqu'un peut me nommer la personne? Moi, je ne suis pas vraiment. Hein? Jean-Sébastien? C'est ça. Et puis ça, c'est son bébé, Maxime. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que dès qu'ils ont gagné, lui, il est sorti sur la glace avec son bébé. Hein? Et tu sais, hein, tu connais les papas, on a toujours des rêves, des visions pour nos enfants. Je ne sais pas si c'est le cas pour lui, pour Jean-Sébastien, mais on peut penser que ça serait pas étonnant que lui, il a peut-être déjà le futur de son fils déjà en vue, n'est-ce pas? Peut-être un jour il va être gardien de but. Mais est-ce que Maxime est prêt à être gardien de but là? Non, il peut pas jouer le rôle de gardien de but, peut-être la rondelle, mais ça serait, il est tellement petit, mais c'est, ça marche pas. Il est trop petit, ça serait, est-ce que vous êtes d'accord que ça serait extrêmement dangereux pour Maxime d'essayer d'arrêter la rondelle? Non, mais on va prier pour lui parce que le bébé, il est né avec un petit problème dans son œil et aussi son œil droit n'était pas assez développé, mais ils ont des projets de faire les opérations pour qu'il puisse voir et tout. Donc, on va prier qu'il puisse grandir en pleine santé et peut-être un jour, s'il veut, devenir gardien de but comme papa, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas prêt. Il est loin d'être prêt. Ça serait la folie. Mais savez-vous quoi? Il y a beaucoup de chrétiens dans le corps de Christ qui sont comme ça. Ils ont une vision d'une vie victorieuse. Ils voient la coupe Stanley spirituelle pour leur vie. Mais ils sont tellement petits qu'ils peuvent s'asseoir dans leur vision. C'est ça. On a besoin de grandir pour être à la hauteur, assez développé pour pouvoir faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on voit. Donc, dans ce verset qu'on a lu, j'ai besoin de grandir. La troisième chose, c'est que je ne peux pas devenir grand tout seul. Il est impossible. Si je suis membre du corps, je viens de voir dans le verset qu'on a lu, c'est que je suis dépendant des autres membres du corps de Christ. J'ai besoin de, un, des dons du ministère, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, parce que eux, ils sont donnés au corps pour développer, pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Ils sont donnés pour le perfectionnement ou la maturité des saints. Donc moi, j'ai besoin de eux. Et aussi, j'ai besoin des autres membres. Je ne peux pas grandir tout seul. Il n'y a pas un chrétien qui est capable de remporter le prix spirituel de sa vie tout seul. On a besoin du corps de Christ. Amen. Et c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller loin avec Dieu? Vous voulez être vraiment grand? J'ai une image que je vais vous montrer encore ce matin. Regardons ceci. Hein, savez-vous c'est quoi là? C'est pas l'image, c'est un peu flou. Ça, c'est le plus grand arbre au monde. C'est un séquoia. Et celui-là, il y a même un nom, hein? Je l'ai écrit quelque part. Hein? C'est l'arbre Mendocino. Donc, ils ont donné un nom à cet arbre parce que c'est l'arbre le plus grand au monde actuellement qui est vivant. Et je pense qu'il y a 367 pieds et 6 pouces. Ça, c'est quand même pas mal grand, hein? C'est comme 20 mètres plus haut que la statue de la liberté à New York. C'est énorme, cet arbre. Mais savez-vous quoi? Il y a quelque chose d'intéressant quand on pense au séquoia. C'est qu'on dirait que pour avoir un arbre comme ça, ça prendrait les racines assez profondes, n'est-ce pas? Et écoute, je veux illustrer un point aujourd'hui. On a besoin des racines profondes. La Bible dit que, dans un sens, nous avons besoin d'être comme les arbres plantés près des courants d'eau et avec les racines profondes. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec le séquoia? C'est que le système de racines est peu profond. Il y a à peu près 4 à 5 pieds de profondeur seulement. 4 à 5 pieds de profondeur. Pour un arbre, 365 pieds de haut, c'est quelque chose. Comment est-ce que ça peut tenir debout? Il y a un secret, c'est pas un secret, mais quelque chose que je trouve bien intéressant, la façon que Dieu a créé cet arbre, c'est que même si les racines sont peu profondes, les racines sont très larges, et c'est pas souvent qu'on va voir un séquoia tout seul. Regardons la prochaine image. Regardons ceci. C'est comme ça que les séquoias vont pousser. Et les racines d'un arbre vont être toutes tricotées avec les racines d'un autre arbre. Et quand toutes les racines sont mêlées ensemble, boum, on a quelque chose de solide. N'est-ce pas quelque chose? Donc, ça, c'est la même chose. Si vous voulez grandir et faire tout ce que Dieu veut pour votre vie, il faut pousser les racines, pas juste profondément, mais aussi à la largeur pour pouvoir être en contact avec les autres membres du corps de Christ. Et pas juste un contact superficiel, mais un vrai contact. Il y a même, on voit les arbres, des fois, qui vont vraiment pousser ensemble, dans le sens que les deux arbres deviennent presque comme un arbre. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas devenir grand tout seul. Puis, la quatrième chose que je vois dans ce verset, c'est que je dois contribuer à l'édification du corps dans un esprit d'amour. Donc, ça, c'est des quatre choses. J'ai une fonction importante, j'ai besoin de grandir, je ne peux pas devenir grand tout seul, et moi-même, je dois contribuer à l'édification. Mes racines sont destinées à être tricotées avec les racines de quelqu'un, avec le prochain arbre à côté de moi. Amen. Donc, regardons, il y a une autre version dans la parole vivante de Éphésiens 4, 16. J'aime tellement cette version qui dit, « De cette même manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, encore, souligner les mots « chaque partie », en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent, quoi? On va le dire encore. Tous les membres contribuent ensemble. Soulignez ces deux mots. Contribuent ensemble. Contribuent ensemble. Dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Donc là, on voit, on est comparé dans la Bible à une plante qui grandit. On est aussi comparé à un édifice qui est bâti et construit. C'est merveilleux d'être dans le corps de Christ. C'est bon d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Mais je ne suis pas une pierre isolée. Je suis une pierre vivante, bâtie sur la pierre angulaire qui est Jésus. Mais je ne suis pas là tout seul. Je suis dépendant des autres pierres dans cette maison merveilleuse, n'est-ce pas? Vous êtes dépendant des autres pierres. Nous avons besoin les uns des autres. Et aujourd'hui, on va voir même jusqu'à quel point il est important pour nous de comprendre l'édification mutuelle. La Bible dit que nous sommes un édifice qui est en train d'être construit, mais que c'est Dieu qui nous bâtit, mais nous aussi, nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire que moi, je peux avoir un rôle pour vous bâtir aussi. C'est ça que je fais ce matin, n'est-ce pas? J'essaie de faire ma part, ce que Dieu m'a donné comme mission, de vous aider à grandir. Mais vous, vous avez des choses à faire qui vont m'aider à grandir et qui vont aider les autres à côté de vous à grandir. Nous avons tous besoin les uns les autres, n'est-ce pas? On ne veut pas rester petit comme Maxime, on veut être grand comme Jean-Sébastien. Amen? On veut être grand, on veut être champion, on veut remporter le prix. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce matin, je ne vais pas prendre longtemps sur chaque point. Parce qu'il y en a, j'ai étudié cela, et la Bible parle beaucoup de l'importance de l'édification mutuelle dans le corps de Christ. Ça, c'est une responsabilité que j'ai. J'ai quelque chose à apporter au corps, et le corps a quelque chose à m'apporter aussi. En fait, il y a 12 étapes que nous voyons dans la parole de Dieu, que nous allons étudier juste un peu ce matin, et là, je vais vous laisser prendre part avec ça à la maison, et méditer cela, et mettre cela en pratique, et ça va transformer votre vie. Et moi, je suis convaincu que si nous mettons ces 12 points en pratique, que même la semaine prochaine, on va être plus grand que cette semaine. On va revenir à l'église la semaine prochaine plus fort, plus grand. Peut-être pas à la pleine maturité, mais on sera plus les nourrissons, mais on va voir que le développement, le cheminement et le progrès spirituel que nous allons faire. Est-ce que ça vous tente? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 12 choses. Numéro 1, prenez une décision de devenir adulte. Savez-vous quoi? Dans le naturel, un enfant, dans le physique, n'a pas le choix. Un enfant qui va naître, un enfant, je parle, qui est en santé et que dont tous ses systèmes, tous les organes de son corps sont fonctionnels, un enfant ne peut pas décider le contraire. Un enfant ne peut pas dire, bon, mais je vais rester bébé. Ou rendu, il y a des gens qui aimeraient ça, rendu à 21 ans, oh, je vais avoir 21 ans. Jean-Charles, tu as quel âge? C'est ça. Jean-Charles, c'est notre vieux ado à l'église et il a juste 28 ans, mais quelques centaines de mois. Mais savez-vous quoi? Même si on aimerait faire cela, arrêter la croissance ou le... On peut pas. C'est automatique. Mais dans l'esprit, c'est pas comme ça. Dans l'esprit, on est né de nouveau par le sang de Jésus et par l'esprit de Dieu. Nous sommes régénérés. Nous devenons les nouvelles créatures en Jésus. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes des bébés en Jésus, comme Maxime était bébé. Et si on ne prend pas une décision de grandir, on va rester bébé. Moi, j'ai déjà rencontré des bébés spirituels qui sont chrétiens depuis 50 ans, mais sont des bébés. Ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais développé. Et ça, c'est quelque chose qui est triste, mais la bonne nouvelle, c'est que si on peut décider de ne pas grandir, on peut aussi décider de grandir. On voit cela en Pierre, il dit de désirer le lait pur de la parole de Dieu par lequel on peut croître et grandir. Donc ça, c'est quelque chose. Mais regardons, il y a un verset ici, en Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Nous deviendrons des adultes. » Tout le monde dit les adultes. « Dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés à des vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines trompées par des hommes recurrents à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. » Donc, moi, je peux prendre une décision. Je vais grandir. Est-ce que vous voulez grandir avec moi? Alléluia. Donc, prenez la décision et puis faites tout ce qui est nécessaire pour grandir. Numéro 2, développez une communion plus intime avec le Christ. On parle de l'importance de l'édification mutuelle. Mais on sait que tout le corps tire sa croissance de la tête. La tête est déjà développée. Jésus est déjà parfait. Mais nous tirons notre croissance de lui. Et plus je suis en communion avec Jésus, plus ma communion est intime avec lui, plus je grandis et plus je suis transformé dans son image. C'est bon, n'est-ce pas? On veut être transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Regardons. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards, jusqu'à ce que nous ayons quoi? Pleinement atteint sa mesure. Donc, faites pas l'erreur. Parce que je connais des chrétiens qui commencent à grandir et rendus, moi je dirais surtout, rendus à l'adolescence spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe. Ils pensent, est-ce que vous savez c'est quoi d'être ado et je sais pas pourquoi, mais rendu à un certain âge, on pense qu'on sait tout. On pense que nos parents ne savent plus grand-chose. On sait mieux qu'eux et on sait comment faire et tout, mais c'est incroyable, hein? C'est pourquoi ma grand-mère avait toujours un dicton que qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est enterrer les ados à 12 ans, puis les déterrer, désenterrer à 21 ans. C'est ça que ma grand-maman a toujours dit. Mais incroyable, mais vrai, ma grand-mère, elle est vraiment douce, elle est fine, hein? Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est ça, hein? C'est comme le gars à 21 ans qui dit, oh, wow! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, papa, maman, mais vous avez vraiment appris des choses, vous êtes devenu pas mal plus sage dans les dernières quelques années, hein? On se réveille, puis, ah! Mais savez-vous que dans l'esprit, c'est la même chose? Moi, je connais des personnes qui ont commencé à grandir. Ils sont tout feu, tout flamme pour Dieu. Ils ont faim de Dieu. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ils veulent grandir jusqu'au moment où ils pensent que, bon, je suis arrivé. Moi, je sais. Je sais. Hein? Le pasteur commence à prêcher. Oh, mais je connais ça déjà. J'ai entendu ce verset prêcher 1000 fois. Hein? Oh, je pourrais le prêcher encore mieux que lui. On rendu à l'adolescence spirituelle, si on ne fait pas attention, on va arrêter de grandir. Et c'est là où on a besoin de prendre une décision. Non, je vais continuer. J'ai pas toute la connaissance. Qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié? Le fondateur du Centre de formation biblique Raymond, Kenneth Hagin, il a été 70 ans, plus que 70 ans dans le ministère. Ça, c'est quelque chose. 70 ans du ministère à temps plein. Et puis, je m'en souviens être dans une réunion avec lui, peut-être vers la 65e année de son ministère, juste 5 ans avant qu'il ait décédé. Et je m'en souviens, je l'ai entendu dire avec mes propres oreilles, il a dit à toute la foule, des milliers de personnes qui étaient là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que une chose que je sais, c'est que plus je connais Dieu, plus je me rends compte du fait que je ne connais pas grand-chose. Parce que Dieu est tellement grand. Donc, faisons attention, parce que, laissez-moi vous dire, hein, l'orgueil, si vous voulez, spirituel, peut vraiment arrêter la croissance comme ça. Donc, développer une communion plus intime avec le Christ. Numéro 3, dépendez de l'onction pour remplir votre fonction. Si moi, je suis un membre dans le corps de Christ et j'ai besoin d'apporter quelque chose aux membres autour de moi, je ne peux pas le faire dans ma propre force. Il faut que je puise dans les forces que Dieu m'a données. Le verset Éphésiens 4, 16 dans la parole vivante dit « L'ensemble bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse à condition. » Soulignez la phrase « à condition. » « À condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et les capacités, soulignez les mots force et capacité, qui lui ont été données, pas qui ont été méritées ou apprises, mais les forces et les capacités qui lui ont été données. Savez-vous que vous avez des capacités qui sont, c'est un don. Et si c'est un don, je ne peux pas me vanter. Si je prêche ce matin et l'onction de Dieu est là pour enseigner des choses, je ne peux pas me vanter. Parce que c'est un don. Si vous faites ce que Dieu vous demande à faire dans le corps de Christ, et ça amène des bénédictions, et ça aide les autres autour de vous de grandir, vous ne pouvez pas vous vanter. Mais laisse-moi vous dire que vous avez besoin de l'onction pour la fonction. Tout le monde dit, j'ai une onction pour ma fonction. C'est quoi une onction? Une onction, c'est une manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour faire une tâche particulière. Si je suis appelé à prêcher, Dieu me donne une onction pour prêcher. Si vous êtes appelé à être, un enseignant, Dieu vous donnera une onction pour enseigner. Si vous appelez et vous avez un don de donner dans le corps de Christ, vous allez avoir une onction pour cela. Moi, je crois qu'il y a des onctions, il y a une manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu pour tout ce que nous avons besoin de faire dans le corps de Christ. Pour être maman, pour être papa, pour être un bon mari, il y a des onctions qui nous sont disponibles et on a besoin de ces grâces si nous allons faire grandir et édifier. On parle de l'édification mutuelle si nous allons construire le corps de Christ autour de nous. Amen. Numéro 4, recevez l'autorité de vos leaders spirituels. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que vous voulez vraiment fortifier, édifier, construire le corps de Christ? Vous êtes dans l'impossibilité de le faire sans être soumis à l'autorité spirituelle que Dieu a mis en place dans l'Église. Amen? Là, il y a un peu moins d'enthousiasme, mais c'est quand même vrai, hein? Parce que le mot autorité, hein, pour quelques-uns, c'est sacré, on dit ça, hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés par l'autorité. Parce que les gens qui ont abusé de leurs droits et de leurs privilèges, ils ont fait mal aux gens. Mais la vraie autorité de Dieu, comme la Bible dit ici, regardons 2 Corinthiens 18, « Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre quoi? Édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. » Laisse-moi vous dire, Paul a compris une chose, l'apôtre Paul a compris que Dieu lui a donné une autorité spirituelle pour être apôtre, mais cette autorité était en place pour faire du bien, pour bâtir, pour construire, pour édifier, et jamais pour détruire. Donc, savez-vous quoi? La soumission à l'autorité est quand même volontaire. Dieu ne va pas vous forcer d'être soumis à son autorité, vous êtes d'accord? Et Dieu ne veut pas vous forcer d'être soumis à n'importe quelle autorité. Au travail, vous avez un patron, et votre soumission à lui est volontaire, vous êtes d'accord? Il y a juste un problème. Si vous choisissez de ne pas être soumis, vous serez probablement viré, n'est-ce pas? Et si vous choisissez de ne pas soumettre à Dieu et à son autorité, vous ne serez pas béni non plus. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est ceci. Dieu ne va jamais vous demander de vous soumettre à un leader spirituel qui est égaré et qui est hors la traque et qui est vraiment en train de faire des choses malsaines. Dieu ne vous demandera jamais à faire cela. Là, vous avez toujours le choix de vous placer sous l'autorité de quelqu'un. Comme Paul a dit, « Suis-moi comme moi je suis le Christ. » Donc, êtes sûr et certain que vos leaders spirituels suivent Jésus et là, vous pouvez recevoir d'eux. Amen. Et ça va vous bénir, ça va vous édifier, ça va vous faire du bien. Numéro 5, prenez le temps de vous édifier vous-même en priant par le Saint-Esprit. Si je vais édifier mes frères, mes sœurs, les autres membres du corps, il faut que je sois édifié moi-même. Et je peux pas, même si j'ai besoin des autres membres, je peux pas toujours attendre que les autres viennent me voir. Je peux prendre une décision moi-même de m'édifier. Et une chose que je peux faire, c'est ici en Jude 1:20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Savez-vous quoi? Plus vous priez dans l'Esprit. Et la Bible dit qu'on peut être rempli de l'Esprit. Le jour de Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Savez-vous quoi? La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il dit des mystères à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle directement à Dieu. C'est une ligne directe à Dieu. Et quand on prie dans l'Esprit, ça nous édifie, ça nous bâtit. Et plus je suis bâti, plus je peux vous bâtir. N'est-ce pas une bonne chose? Donc, c'est des choses pratiques ce matin. Donc, numéro 6, aspirez au don de l'Esprit pour le bien de toute l'Église. On parle de comment s'édifier mutuellement. Une autre chose qu'on peut faire, on peut aspirer au don de l'Esprit. La Bible dit en Corinthiens 12 qu'il y a au moins 9 manifestations de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Il y a les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il y a les paroles, il y a des dons vocaux. la prophétie, les langues, l'interprétation des langues. Il y a les dons de puissance, la foi particulière, le don d'opérer des miracles. Amen? On voit de tous ces 9 dons dans la parole de Dieu. On voit ces choses là-dedans. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est qu'on a besoin d'aspirer, de désirer ardemment que ces dons soient en manifestation. Mais regardons qu'est-ce que le verset dit ici. Alléluia. Oh, j'ai oublié aussi, il y avait le don de guérison aussi qui était inclus dans la liste des dons de puissance. La Bible dit, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour quoi? Pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Moi, ici, on voit que si nous voulons vraiment grandir, on a besoin des dons de l'Esprit. Mais le problème souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des individus dans le corps de Christ qui vont aspirer aux dons, mais pas pour l'édification du corps, mais c'est parce qu'eux autres, ils veulent être la vedette spirituelle de l'Église. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes comme ça? Est-ce que vous êtes une personne comme ça? Vous n'avez pas la main. Je ne veux pas savoir. Juste répentez-vous tout de suite et on ne va pas savoir, non? Il y a des gens qui veulent être la vedette de l'Église et c'est comme, « Wow, Dieu, j'aspire au don, Seigneur, je veux prophétiser, je veux avoir le don d'opérer des miracles, le don des guérisons et tout cela. » Et on prie et on demande cela pour nous. Mais la Bible dit que si vous, parce que vous aspirez au don, que ça soit pour l'édification de l'Église. Donc, laisse-moi juste vous donner un truc. Plus vous priez pour avoir les manifestations des dons, pas pour vous, mais juste pour l'Église, plus l'Église va être bâtie et construite. Donc, on devrait prier comme ça. Seigneur, on a besoin des dons. On a besoin des dons de révélation, dons vocaux, des dons de puissance. On a besoin de cela pour grandir. Mais Seigneur, utilise n'importe qui que tu veux. Si tu veux utiliser Joseph ou Joséphine, peu importe, Seigneur. Si tu veux m'utiliser, tant mieux, je me voici, je suis bien disposé. Mais Seigneur, ça, c'est pas ça qui compte. C'est pas qui vous choisissez, mais Seigneur, nous aspirons nos dons pour l'édification de l'Église. Si tout le monde a cette attitude, je suis convaincu qu'on va en voir davantage. Amen. Alléluia. Donc, on est là vers numéro 7. Venez à l'Assemblée dans le but de donner. On parle de l'édification mutuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour édifier le corps de Christ, pour faire grandir les autres membres du corps? Venez à l'Assemblée dans le but de donner. Regardons 1 Corinthiens 14. Verset 26. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse, pourquoi? Pour faire un grand spectacle. Que tout se fasse pour avoir un grand spectacle. Non, que tout se fasse pour l'édification. C'est pourquoi, si quelqu'un veut prêcher et enseigner, c'est pas pour être encore la vedette, c'est pour édifier, pour construire. Si quelqu'un veut chanter, jouer la musique, c'est pour construire, c'est pour édifier, c'est pour bâtir les membres du corps de Christ. Amen. Et il faut avoir cette attitude. Il faut avoir cette optique. Il faut toujours venir à l'Église avec cette optique. Est-ce qu'on va recevoir? Oui. Est-ce qu'il faut recevoir? Oui. Parce qu'il faut recevoir avant de donner, des fois. Si vous n'avez rien, vous pouvez rien donner, vous êtes d'accord? Mais on reçoit de Dieu et on donne. Et on donne par la foi. Mais la prochaine fois, quand on vient ensemble, laissez-moi vous dire, vous avez plus à offrir au corps de Christ que vous croyez. Et des fois, le problème encore, on voit les personnes prêcher, enseigner ou chanter, jouer de la musique, et on pense, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, je ne peux pas faire grand-chose. Laissez-moi vous dire que vous avez quelque chose à apporter. Je n'ai pas vu mon foie aujourd'hui. Je n'ai pas vu mes reins aujourd'hui. Mais je suis content qu'ils sont là. Et vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ses intestins ce matin? J'espère que non. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que les intestins sont là? Je suis content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu, vraiment vu ses poumons ce matin? Non, mais... Je suis content que les poumons, je suis content que vos poumons fonctionnent ce matin. On croit au miracle, on croit que Dieu peut ressusciter les morts, mais on ne veut pas le faire ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que c'est que même si dans le naturel, on ne voit pas notre utilité, nous avons tous quelque chose à apporter. À chaque fois qu'on vient à l'Assemblée, on devrait venir avec cette optique. Même pendant la louange et l'adoration, savez-vous quoi? Vous avez quelque chose à donner. Et si vous, parce que la Bible dit que Jésus avait l'Esprit Saint à mes yeux, et il a donné à chacun de nous à mes yeux de l'Esprit Saint. Mais quand la mesure que Dieu m'a donnée est mise ensemble avec votre mesure et avec votre mesure, et tous nos mesures sont ensemble, ensemble, avec passion et à l'unisson, là on a une plus grande manifestation de sa gloire. Amen. Donc, venez toujours avec cette optique de donner. Numéro 8, ne laissez pas votre connaissance vous enfler d'orgueil. La Bible dit clairement dans ce passage, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Est-ce que vous voulez être bâti ou enflé? Il y a des gens qui sont enflés, hein? Avez-vous déjà vu des personnes, hein, qui ils ont des faux muscles, hein? Ils vont porter une chemise avec des ballons en dessous. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oh, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Oh! Ouh! Mais ça prend juste le mot que je peux jamais prononcer, une aiguille, c'est ça, hein? Et on voit une aiguille. Ça. Et on peut péter le ballon. Et on peut avoir le gars le plus mince au monde, le plus faible au monde. Et là, il donne l'impression qu'il a quelque chose, mais il est juste enflé. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli de connaissances, qui connaît les versets de la parole, qui connaît qu'est-ce qu'il faut faire. Il connaît toutes sortes de choses, mais il ne marche pas dans l'amour. La connaissance enfle, mais l'amour bâtit. Là, essaye de péter les vrais muscles. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Ça peut être dangereux, essayer de faire ça, hein? Mais quelqu'un, moi, qu'est-ce que vous aimeriez mieux, être quelqu'un qui est vraiment bâti ou quelqu'un qui est enflé? Moi, je veux être bâti. Donc, OK. Bon, on continue. Numéro 9. N'utilisez que les paroles qui vont édifier. Ça, c'est quelque chose. On parle de l'édification mutuelle. Verset 29 d'Éphésiens 4. Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques, quoi? Bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Oui, mais est-ce que c'est un peu exagéré, cette affaire? Aucune veut dire combien? Aucune. Zéro. Sauf que, est-ce qu'on a quand même le droit, peut-être au moins 10 fois par semaine, on peut lâcher les paroles qui sont malsaines? Non. La Bible dit qu'aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole sort de votre bouche. Amen. Numéro 10. Et voici quelque chose de bien important. Acceptez la responsabilité pour vos choix personnels. Et là, je sais qu'on a des personnes ici qui sont peut-être les visiteurs et vous ne connaissez pas le Seigneur depuis longtemps. Mais là, je m'adresse surtout et avant tout à ceux et celles qui connaissent Jésus depuis un certain nombre d'années. Vous devriez savoir mieux. Et qu'est-ce que il faut jamais oublier, c'est que quand je fais un choix personnel, ça va toujours affecter les autres membres du corps de Christ qui sont attachés à moi. N'est-ce pas? Alléluia! Si le bras décide, ben moi je vais me mettre dans le feu. Je veux me brûler. Je veux me faire mal, je vais mettre tout mon bras dans le feu. Mais la main ne veut pas. Mais si le bras est dans le feu, devinez quoi? La main est dans le feu aussi, n'est-ce pas? On ne peut pas se faire mal. Un membre qui se fait mal fait automatiquement mal à tout le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Encore, il y a des choses qu'on fait des fois, on tombe et on a des moments de faiblesse, on peut se repentir et on n'est pas là pour se condamner, on est là pour recevoir le pardon, se redresser et aller de l'avant. Mais quand même, regardons ce verset, Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix. Et à quoi? L'édification, quoi? Mutuelle. Recherchons ceux qui contribuent à l'édification mutuelle. Verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ça, c'est quelque chose, hein? Je suis dans le corps de Christ et mes décisions, mes choix personnels vont, veut pas, ça va affecter tout ce qui m'entoure. Amen? Donc, c'est juste bon de garder ça dans notre pensée. Numéro 11, ça va de pair avec numéro 10, mais recherchez le bien des autres avant de chercher le plaisir. Si vous voulez être vraiment grand, Jean-Sébastien versus Maxime, OK? Encore, combien de vous voulez tenir la coupe Stanley au lieu d'être assis dedans? OK? Si on veut vraiment remporter le prix, il faut rechercher le bien des autres avant de chercher le plaisir. Il y a un verset de la parole, et combien de vous, on vient de dire, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? C'est dans la Bible. Romains 15, 1 dit, nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre pour notre plaisir. Cherchons au contraire à être agréable au prochain, pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son quoi? Son vrai bien. Une telle attitude constructive, souligne le mot constructif, nous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Là, on aurait pu prêcher une heure juste là-dessus. Nous n'avons plus le droit juste de penser à nous-mêmes. Moi, ma vie n'est pas isolée. Je fais partie d'un corps. Et je suis content que vous êtes membre du corps de Christ. Est-ce que vous êtes content d'être dans le corps? Mais sachons que nous avons quand même une responsabilité. Et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Amen. Et puis numéro 12, développons l'habitude. Tout le monde dit l'habitude. De s'édifier réciproquement. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Et quoi? Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire, Thessaloniciens, ça c'est une chose que vous faites déjà. Vous vous exhortez réciproquement, mais je vous dis, continuez à le faire, que ça devienne une habitude. Le problème, c'est que dans les familles aujourd'hui, les gens ont l'habitude de se détruire. Dans les couples, ils ont l'habitude de se détruire. Dans les églises, les gens ont l'habitude de se détruire. Mais Dieu dit ici, développez l'habitude de s'édifier, de s'exhorter réciproquement, de s'édifier mutuellement. Il faut que ça devienne une habitude. Vous savez c'est quoi une habitude? C'est quelque chose que vous faites sans réfléchir. Et on devrait être tellement bon qu'à chaque fois qu'on voit un frère, notre réaction, notre réflexe, tout de suite, c'est, moi je veux bâtir Gaëtan. Je veux faire quelque chose aujourd'hui qui va faire en sorte qu'il va grandir un petit peu aujourd'hui. Quand je viens à l'église, je cherche les occasions pour édifier, pour bâtir, pas pour détruire, mais pour construire le corps de Christ. Que ça vous intéresse d'être dans un corps qui est grand, qui est mature, qui remporte le prix. Là, je vous ai donné du stock aujourd'hui. En fait, je viens de vous donner un menu spirituel qui est plein. Là, vous avez assez pour aller déguster la parole de Dieu pour une semaine, deux semaines, un mois, une année. Mais prenez ces versets, méditez ces choses et demandez, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de mettre ça en pratique? Est-ce que j'ai développé l'habitude d'édifier mes frères et mes sœurs? Sinon, Seigneur, aide-moi, je veux le faire. On va se lever debout. Jean-Charles, tu peux venir. Alléluia. On va le dire ensemble. J'ai une fonction. J'ai besoin de grandir. Je ne peux pas devenir grand tout seul. Je dois contribuer à l'édification du corps de Christ. Alléluia. Merci, Père Céleste. Seigneur, merci. Si tout le monde peut juste rester tranquille pour les prochaines quelques minutes. Moi, vous savez, moi, j'ai pris une décision. En fait, j'ai fait un engagement envers le Seigneur qu'à chaque dimanche, je voulais donner l'occasion à tout le monde qui est ici présent de devenir chrétienne, de faire partie du corps de Christ. Et peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais c'est bien beau de parler du corps de Christ, d'être membre d'une famille spirituelle, mais si vous êtes honnête avec vous-même et avec Dieu, aujourd'hui, vous n'avez pas l'assurance dans votre cœur que vous êtes déjà pardonné de vos péchés et que vous n'êtes pas déjà dans la famille de Dieu. Pensez à ça. Si aujourd'hui, en quittant la salle, votre cœur arrête de battre, est-ce que vous savez sans aucune doute que vous allez passer l'éternité au ciel? Parce que selon les images que je vais vous montrer, la Bible est claire là-dessus, c'est que tout le monde a péché. La Bible dit en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous, les hommes, nous sommes venus dans le monde infectés par le péché, séparés avec Dieu, avec aucun moyen de se sauver soi-même. C'est pourquoi Dieu a fait quelque chose, si on veut regarder la prochaine image. Dieu a envoyé son Fils, qui a fait un pont entre Dieu et nous. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et c'est pourquoi, en étant un homme parfait et un Dieu parfait, il peut se tenir dans la brèche et faire le pont entre nous et Dieu. Ce matin, je ne vous invite pas à devenir membre de l'Église de la vie comblée. Je vous invite à traverser ce pont et de devenir membre de la famille de Dieu. Beaucoup de personnes, ils croient que Dieu existe, ils croient même que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Mais malheureusement, ils restent toujours du mauvais côté de la croix. Ils n'ont jamais pris une décision personnelle de traverser le pont et d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Savez-vous c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est un patron, c'est un maître. Et si vous croyez en Jésus, mais vous n'avez jamais consacré votre vie à lui, vous n'avez jamais reçu personnellement le don gratuit de la vie éternelle, vous êtes toujours du mauvais côté du pont. Donc aujourd'hui, je vous donne l'occasion. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici que vous aimeriez prier, vous aimeriez quitter la salle aujourd'hui avec cette paix, cette assurance, en sachant que vous avez reçu le don gratuit de la vie éternelle et que vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Donc laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Je veux juste vous dire une chose que Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 32. Il a dit ceci, que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, si tu es vraiment prêt aujourd'hui à donner ta vie à Jésus, tu serais prêt à le confesser devant les autres. Si tu me confesses, en fait, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le reniera aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est déjà venu, il est déjà mort, son sang est déjà versé et il vous offre la vie éternelle comme un don gratuit. Donc ce matin, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin que dans votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas encore prêt à rencontrer Dieu? Encore, si votre cœur arrête de battre, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Vous dites, mais moi, j'espère, mais je ne sais pas, j'ai toujours lu ma Bible, nulle part. Dans la Bible, c'est marqué que quelqu'un qui lit la Bible va aller au ciel. Mais je crois en Jésus. La Bible dit que même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les démons ne sont pas sauvés. Satan n'est pas sauvé. Oui, mais je vais à l'église. Aller à l'église, c'est pas assez. Comme je dis toujours, s'asseoir chez McDo, tu ne deviens pas un hamburger. S'asseoir dans une église, tu ne deviens pas forcément un chrétien non plus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a vraiment donné tout son cœur à Jésus, qui a confessé avec sa bouche le Seigneur Jésus, qui a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qui est prêt à vivre pour Jésus le restant de sa vie. Donc ce matin, je vous donne l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas honte de dire « Oui, je veux donner ma vie à Jésus. » Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Quand je fais ça, s'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut traverser le pont, juste lève ta main, vite, vite dans l'air. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de le faire? Oui? Alléluia. Est-ce que tu es venu la semaine passée? Non. C'est ça, je me suis dit, c'est ça. Viens-t'en. Viens-t'en. Il n'a pas honte de le dire. Il n'a pas honte de le dire. Amen. Il ressemblait à quelqu'un d'autre, je m'excuse. Son nom encore? Stéphane. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Stéphane ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aussi veut donner sa vie à Jésus ce matin? N'aie pas peur. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur quand on va prier tantôt. Et quand nous prions cette prière de la foi, le Saint-Esprit va faire de nous la nouvelle création. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous lève la main vite, vite. Stéphane, j'aimerais t'inviter à prier cette prière avec moi. Et tout le monde prie avec moi, parce que Jésus t'aime, OK? Donc, on va faire cette prière. Père Céleste, au nom de Jésus, aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, mon Maître, mon Patron. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Merci, Seigneur, que le sang de Jésus a lavé mes péchés et je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis pardonné, lavé, justifié. Je suis ton enfant. Je vivrai avec toi pour toute éternité. Merci, Seigneur. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et je suis content pour toi.
Alléluia. Merci pour le Dieu.
C'est un nouveau départ. Notre assistant, Pasteur Claude, est ici. On a un cadeau qu'on aimerait t'offrir. Et si tu as d'autres questions, si tu peux juste prendre deux minutes avec moi.